m'appelle Didier. Mon épouse est décédée de maladie. J'ai toujours été convaincu que le temps ne suffirait pas à apaiser ma tristesse. J'ai cherché des ressources autour de moi pour traverser cette période. J'habite au Pays Basque. J'ai trouvé des appuis qui me permettent d'être là aujourd'hui, de parler devant ce micro pour partager mon expérience et vous encourager, pour vous aider à faire les premiers pas difficiles sur ce nouveau chemin que vous comme moi vous n'avez pas choisi, mais aussi pour remettre en question des idées reçues et des tabous, pour vous faire rencontrer des personnes inspirantes qui peuvent être là pour vous aussi comme elles l'ont été pour moi. La perte et le deuil sont dans notre vie, inutile de se le cacher, on va en parler au contraire. Le deuil autrement, c'est une autre route que nous pouvons prendre ensemble. Je n'ai aucune connaissance professionnelle ni rien à vendre dans ce domaine. Si vous avez appuyé sur play pour ce podcast, félicitations, vous avez fait un premier pas. Venez avec moi, je vous emmène. Bonjour à tous de nous avoir rejoints sur le podcast Le Deuil Autrement. On reprend donc avec ce deuxième épisode qu'on va intituler Les Préparatifs. On reprend donc notre série. Je vous rappelle l'idée, on suit la chronologie des événements. On a vu dans notre premier épisode le jour où effectivement survient cet événement, survient le décès. On a détaillé tout ce qui se passait, et toutes les émotions, le bouleversement qui nous traversait. Donc là, on va être sur ce deuxième épisode, on va détailler les événements qui se produisent à partir du lendemain où on a appris ce décès jusqu'au jour des funérailles. Il se passe 3, 4, 5, 6 jours pendant cette période particulière. Et on est toujours donc en compagnie de Charlotte aujourd'hui. Bonjour Charlotte. Voilà, on a passé finalement une première nuit après ce tourbillon, après avoir appris la nouvelle. Il y a quand même une première nuit qui s'est présentée. On se réveille avec évidemment un gros coup sur la tête. On a une espèce de gueule de bois qui nous envahit, les choses remontent tout de suite, les émotions, la tristesse, etc. Moi, en ce qui me concerne, on est un tout petit groupe dans la maison et ces premiers moments, bah, ils se passent entre des câlins, des pleurs, des silences et puis des certaines obligations du quotidien, le téléphone qui va résonner, et puis à côté de ça, le chien et le chat qui, eux, vivent leur vie et font le lien entre nous tous, comme si de rien n'était. D'ailleurs, pour eux, il n'y a pas eu beaucoup de changements. En tout cas, ils perçoivent sûrement nos émotions, mais leur vie n'est pas en apparence impactée. Donc, dans cette période, on sait qu'on a des obsèques, une cérémonie qu'on va faire dans quelques jours. Donc on a effectivement par rapport à ça la volonté de bien faire, de préparer quelque chose, une cérémonie dont on sent qu'elle va être importante pour nous, pour la famille, dans notre vie. En tout cas, c'est un moment majeur. Donc on a à cœur de préparer ça avec ceux qui sont là, de la meilleure façon. Et puis, dans mon cas, puisque avec mon épouse, on en avait parlé, et les proches, on veut être à la hauteur de cet événement, de ce qu'on imagine qu'elle souhaitait, qu'elle nous a transmis. Deuxième sujet, c'est que pendant cette période, les obligations, les contraintes réglementaires, les contraintes légales qu'on ignorait jusque-là, tout d'un coup, vous saute au visage. Que fait-on du corps? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il va? Comment doit-il être conservé? Faut-il qu'il soit vu? Par qui? Dans quelles circonstances, etc. Et puis incinération ou inhumation, bref, il faut faire des choix matériels et il faut aussi de l'argent pour tout ça. Puis troisième élément aussi, on va commencer à informer les membres de la famille, les amis, plus largement de ce qui est arrivé. On va publier un avis de décès, etc. En tout cas, on est dans un moment où il faut quand même communiquer vers l'extérieur. Sur cette partie de cérémonie qu'on prépare, effectivement, on a prévu peut-être de la musique, on a prévu des interventions des uns et des autres, mais ça reste encore un peu irréel et on est encore assez loin. Dans les premiers temps, on est vraiment confronté aux obligations vis-à-vis de ce corps, donc puisque il est là quelque part. Il y a une réglementation assez stricte. Vous avez 6 jours pour que le corps soit inhumé, soit incinéré, en tout cas, ou mis dans un caveau. En tout cas, il y a un délai maximum. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a un délai minimum. Et donc, tout d'un coup, vous avez un compte à rebours qui démarre. Il faut choisir incinération, inhumation. Donc, ce qui nous concerne, c'était la crémation. Donc, on se retrouve à vouloir prendre des créneaux sur un agenda qui est déjà occupé. Le crématorium ici à Biarritz est surexploité. Donc on vous dit vous avez 1 heure, il y a un créneau jeudi de 15 à 16 ou vendredi matin. Bref, on est dans un... on se retrouve client de produits, de services qu'on n'a absolument pas demandé, alors qu'on est encore bouleversé, on doit prendre des décisions et engager de l'argent parce que tout ça va coûter un certain prix. Et puis il y a une succession de prestations qui vont se présenter et qui viennent encore une fois percuter la peine et la tristesse et le recueillement qu'on aurait envie de vivre. En tout cas, ça vient vraiment en opposition avec des choses beaucoup beaucoup plus profondes qui sont en nous et régler ces affaires sont un problème en fait. Donc une des premières questions, donc il nous faut déterminer où est-ce que le corps va être vu. Or, ce corps, c'est celui de mon épouse. Moi, j'y tiens, je veux le protéger. Je n'ai pas envie qu'il soit vu par tout le monde, dans n'importe quelle circonstance. Donc on m'explique que là, il y a une chambre mortuaire, effectivement, mais qu'on ne peut pas la laisser là. Et donc, il faut l'emmener et que la tradition, en tout cas, si c'est pas à la maison, si elle n'a pas décédé à la maison, traditionnellement, en tout cas habituellement, c'est peut-être pas une tradition, mais plutôt une habitude, les funérariums sont des endroits où, dans des petites pièces, dans un espace qui est dédié, les corps dans les cercueils sont exposés à la vue de ceux qui voudraient les voir. Donc moi je suis un petit peu partagé. Et puis on m'explique qu'effectivement un corps se décompose assez vite et que si un corps doit être vu, il doit être aussi présentable entre guillemets. Et tout ça est vraiment tout ça c'est très dur à encaisser ces concepts-là quand on est vraiment encore dans l'amour plein et entier avec son épouse, c'est vraiment des choses qui sont un peu particulières à vivre. Et donc on vous explique, comme le corps ne peut pas rester comme ça 3-4 jours, il faut le préparer en tout cas. Il faut intervenir dessus pour qu'il soit présentable. Et donc, du coup, il y a une intervention là aussi de prestataires qui sont des thanatopracteurs, en fait, dont le métier est de rendre à la vue de ceux qui souhaitent un défunt qui soit acceptable et qui tienne les quelques jours où il doit être présenté. Et donc, ces thanatopracteurs interviennent directement puisque sur le corps. Puisque pour que le corps évite de se décomposer, il faut remplacer en fait les fluides. C'est assez particulier, on croirait qu'on parle d'une voiture, mais il faut changer les fluides du corps et les remplacer par d'autres. Donc voilà ce qu'ils font a priori, mais ils interviennent de toute façon puisqu'ils maquillent, ils coiffent en fonction de ce qu'on décide. Il y a aussi évidemment le cas d'accident grave avec des réparations entre guillemets obligatoires du corps, de son aspect physique, du visage en particulier. Et puis ces gens-là, il faut les remercier parce que c'est un travail vraiment délicat. Font ce travail tous les jours. Il y en a un certain nombre qui font ça. Donc Merci à eux, mais en tout cas, c'est des choses auxquelles on est confronté qu'on n'attend pas. Ils interviennent de toute façon. Donc voilà un nouveau prestataire, quelque chose, et moi ça m'a parfaitement choqué parce que pour moi, ce qui était, c'était important que l'intégrité du corps de mon épouse soit conservée, et je voyais assez mal une intervention extérieure avec des produits chimiques ou autres, enfin dont j'ai absolument aucune idée, mais ça ne m'intéressait pas. Donc effectivement, en ce qui me concerne, moi j'ai décidé qu'elle ne serait visible qu'une journée et pas trois, parce que je ne voulais pas qu'il y ait une intervention de ce type-là. Donc bref, nous voilà dans un funérarium qu'il faut louer aussi également. Donc c'est un espace où vous avez plusieurs pièces où effectivement les gens viennent visiter. Donc après l'avis de décès, vous indiquez dans le journal que les gens peuvent se recueillir. Donc nous voilà en tout cas à prendre une décision de réserver le funérarium et d'accepter de la laisser voir à qui voudrait bien sans avoir d'idée préconçue sur qui viendrait la visiter ou pas. Évidemment, il y a la famille, mais il y a aussi d'autres gens qui pouvaient venir. Donc voilà ce qui s'est voilà comment ça s'est produit. Ici au Pays Basque, il y a quand même une tradition importante que les gens puissent voir le défunt. À la fois dans cette phase, on facilite la vie parce que les pompes funèbres je dirais, mettre de l'huile dans les rouages, prennent les rendez-vous, crématorium, etc., réserve le funérarium. Donc tout est fait un petit peu clé en main. Mais à la fois, évidemment, dans l'émotion, la partie personnelle et tout ça, vous rentrez chez vous et vous êtes complètement bouleversé par ce qui est passé, ce qui s'est passé. Donc ici, au Pays Basque, il y a plutôt une tradition de voir le corps qui perdure. D'un côté, c'est bien pour tous ceux qui souhaitent le voir, et d'un autre côté, moi, ces visites me gênent un petit peu sur le principe, qui va la voir, pourquoi, et voilà. Alors, moi, j'aurais envie de la garder pour moi, dans une intimité, et je comprends que certains membres de la famille qui veulent la voir puissent le faire. Donc, certains n'ont pas pu parce qu'ils étaient loin. D'autres sont évidemment venus. La première question que je voudrais te poser, Charlotte, c'est sur le fait de voir ce corps décédé, ce visage en tout cas, dans ce cercueil, est-ce que c'est important dans ce travail de deuil qu'on a à faire, si tant est que, voilà, on a parlé de travail, en tout cas sur ce chemin, est-ce que le fait de voir le corps, pour les gens, c'est important? Moi, ça m'a donné l'occasion d'être proche encore, parce que, encore une fois, on est dans l'amour, la personne est partie, mais elle est encore là, son corps est là, donc quelque part, elle est encore très proche. Donc évidemment, on lui parle, on pleure avec elle, on lui raconte des choses, enfin, on peut imaginer tout ce qu'on peut. C'est important, en tout cas moi ça a été important pour moi d'être là à côté d'elle, mais est-ce que c'est pour les gens d'un cercle un peu plus éloigné, est-ce que c'est important pour eux de voir ce corps dans leur chemin et pourquoi est-ce que c'est important de voir ce corps?
En tout cas, il y a des rites qui entourent la mort en fonction d'aspects religieux ou culturels ou en fonction des régions, comme tu le disais aussi. En tout cas, on va s'accorder à des rites pour justement accompagner ce dernier passage. Parce que là, on accompagne vraiment le passage de la vie à la mort. Et comme tu dis, il y a une sensation qui va résonner avec la séparation ultime physique, c'est-à-dire là, elle est encore là, elle est décédée, elle est morte, mais elle est encore là. On aurait envie, enfin, on sent quand tu parles, on sent que y a quelque chose qui va bientôt m'échapper du lien en fait émotionnel, du lien visuel. C'est-à-dire là, je peux encore la voir, même si elle n'est pas animée comme avant. Là, je peux encore lui parler, je peux décider. Je ne l'entends plus, par contre, mais je peux la toucher,
Je peux la toucher, oui,
même
tout à
si
fait.
la température est différente, le contact est différent, bien sûr. Bon, en tout cas, c'est un temps la veillée, en tout cas, de voir le mort, c'est un temps qui sont des occasions, je dirais, de faciliter la prise de conscience que l'autre mort. Donc, c'est un temps qui peut faciliter, enfin, qui peut aider à prendre conscience. C'est un temps aussi de, comment dire, de recueillement. Parfois, on va seul, on a besoin seul de dire au revoir à quelqu'un. Et parfois aussi, on sent tous les gens autour. C'est un moment de recueillement qui fait du bien, même si on est attristé. Par contre, le fait de ne pas voir le mort n'empêche pas absolument de faire son deuil. Hein, ça, c'est une idée
reçue. Oui, ça, c'est la deuxième question. Donc, ouais. Si, pour des raisons involontaires, je ne peux pas voir le corps de la personne dont j'étais proche, est-ce que ça c'est rédhibitoire? Est-ce que ça m'empêche? Comment ça va impacter?
Si j'ai envie de voir la personne et que je ne peux pas la voir, bien évidemment, ce sera douloureux, mais cela n'empêche en aucun cas le processus de deuil. Hein. Cela n'empêchera pas d'avancer et de dans le chemin du deuil. Hein. Et bien sûr, il faudra permettre à la personne de s'exprimer sur ça et d'inventer, de symboliser autrement. De toute façon, après l'enterrement, dans une certaine partie du deuil, on recherche à être connecté à cette personne. On va essayer de voir sa trace quelque part. Parfois, on la sent physiquement, parfois, on entend quelque chose, parfois, on réécoute les messages sur les répondeurs, etc. Bon. Donc, le fait de ne pas voir n'empêche pas le deuil, mais par contre, pour les gens qui ont souhaité le voir, alors même qu'ils n'ont pas pu, il faut leur permettre de s'exprimer autour,
ouais,
pour qu'ils trouvent des voies possibles, si je puis dire.
Ouais. En fait, c'est un peu un sas, cette période-là, ces 2-3 jours, on peut la voir. Ouais. C'est un sas qui nous permet, nous, de commencer à transformer, de réaliser.
Oui, tout à fait.
On est dans l'antichambre là, de quelque chose. Et,
c'est ça. Ouais. Ça nous permet un peu de réaliser, de dire des choses aussi. Il y a des gens qui ne se sont pas parlé, alors même que parfois ils étaient préparés. Mais là, de pouvoir dire un mot, il y a des gens qui sollicitent un temps seul pendant la veillée avec la personne qui est morte pour pouvoir dire des choses. Dans une toute intimité, bien évidemment.
Ouais. Alors l'autre cas, c'est certains sont là, peuvent voir, mais ne décident de ne pas voir. Et dans le premier cercle, c'est arrivé justement de ne pas souhaiter voir le corps, de ne pas souhaiter voir le corps. Est-ce que c'est un problème finalement? Est-ce que c'est ou tout est juste aussi, comme on l'a vu. Toutes les émotions et tout est juste. Est-ce que de dire non, mais moi je veux pas l'avoir.
Oui. L'idée, c'est de s'accorder avec soi. Si vraiment on se pose la question, est-ce que j'ai envie d'aller le voir, et qu'on passe un temps un peu sur cette question, on sent tout à fait au fond de nous quelle est la réponse. Si la réponse est extrêmement ambivalente, on ne sait pas trop, on a peur, ça peut être important de le parler avec quelqu'un pour parfois faire face à sa peur, s'il est question de peur, parce qu'il n'est pas toujours question de ça. Des fois, c'est un choix, on ne souhaite pas y aller pour d'autres raisons. Mais quand on a peur, effectivement, c'est intéressant d'en parler avec quelqu'un, puisque ce quelqu'un peut des fois venir avec nous, tout simplement. Écoute, je t'accompagne à la porte, et puis devant la porte, tu te sentiras l'envie ou non d'y aller. Tu pourras faire un choix là en conscience, et parfois, effectivement, la personne rentre avec quelqu'un et est content de l'avoir fait. Et puis dans d'autres cas, les gens ont dit au revoir avant, c'est-à-dire que s'il y a eu une maladie ou s'il y a eu... Parfois les gens ont eu le temps de réaliser certaines choses et ne souhaitent pas voir le corps mort. C'est un choix. Et ça n'empêche pas du tout non plus le processus de deuil, et ce n'est pas non plus un problème. Ce n'est pas qu'on dénie la mort ou que... Non.
Tout est juste.
Tout est juste,
Ok, merci Charlotte. Donc du coup, nous on était avec ses enfants devant le funérarium, il faisait assez beau, on était à l'extérieur, et j'étais là encore une fois un peu comme un gardien, parce que je ne savais pas qui allait venir, je ne pensais pas qu'il y aurait beaucoup de monde, et finalement je m'aperçois qu'il y a des gens auxquels je ne m'attendais pas qui sont venus, et en partant on discute, on dit un mot, deux mots, et ça fait toujours du bien et du réconfort, puisque ceux qui viennent, par définition, en tout cas, c'est des gens qui qui était assez proche, en tout cas par le cœur, en tout cas qui la connaissait. Donc c'était intéressant. Alors une petite anecdote, c'est aussi que parfois, voilà, dans ces endroits, il y a évidemment plusieurs pièces, plusieurs corps qui sont là, et donc plusieurs visites de plusieurs familles. Et moi, je me souviens, certains, alors dans le recueillement très solennel, en fait, se trompent et rentrent dans la mauvaise pièce, ne sachant pas, avant de passer la porte et de voir, c'est pas forcément bien indiqué, en tout cas. Donc c'était aussi. C'était amusant de dire non, monsieur, c'est pas là, c'est l'autre à côté. Enfin bon,
Oui,
on a.
ça permet une respiration.
Ouais, voilà. Donc on était. Donc sur ces moments, évidemment, on communique, on doit annoncer à tout le monde. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on a les profils Facebook des uns et des autres. Moi, j'ai mis une information sur le Facebook de mon épouse, mais on commence à communiquer. Et du coup. Moi, il y a des mots, je voudrais juste qu'on revienne sur cette question des mots finalement et de ce qu'ils veulent dire. Parce qu'on dit ma femme est morte, ma femme est décédée, ma femme est partie, elle nous a quittés, etc. Il y a plusieurs façons de parler de ça. Et personnellement, moi, j'ai toujours détesté le terme ma femme est morte. Parce que pour moi, effectivement, la mort, ça n'existe pas vraiment. Et pour reprendre une interview d'un acteur, il avait dit, mais la mort n'existe pas, tout autour de nous est vivant, tout est la vie. Et en fait, c'est juste ce passage. Donc c'est pas un état, on n'est pas dans un état définitif. Cette mort, c'est juste un passage. Donc moi, je dis toujours, aujourd'hui, elle est partie. Oui, moi je dis toujours, ma femme, elle est partie. Plus rarement, nous a quittés. Je dis jamais, enfin rarement, elle est décédée. En tout cas, pour moi, elle est partie quelque part ailleurs et là où je ne suis pas. Et peut-être, voilà, on verra le futur ce que ça nous réserve. Enfin, je ne sais pas si on le verra, mais en tout cas, elle est partie. Elle n'est plus avec nous, mais elle est partie. Elle n'est pas morte. Alors, qu'est-ce que ces mots? Voilà. Qu'est-ce que ces mots aussi, est-ce que ces mots ont un impact, enfin moi j'en suis sûr, est-ce que ces mots ont un impact sur la façon dont on vit tout ça aussi?
Ben disons que ça vient révéler la représentation, notre rapport en fait, ou notre représentation de ce qu'est la mort. Et là aussi, il n'y a pas de réponse absolue. C'est-à-dire que certains vont considérer comment dire, une histoire religieuse, d'autres vont considérer une histoire plus autrement spirituelle, d'autres dans quelque chose de plus opératoire. Non, non, quand on est mort, c'est vraiment le corps qui s'arrête, voyez, enfin, sans. Donc, ça vient juste révéler soi-même. Parfois, au début, c'est sûr que tout de suite, on ne dit pas il est mort. Il y a quelque chose d'extrêmement violent au moment où, d'ailleurs, nous-mêmes, psychiquement, nous ne l'avons pas intégré. Le fait que. Parce que la représentation quand même de la mort, c'est la question un peu d'irréversibilité et d'universalité. Donc effectivement qu'au départ, nous ne sommes pas prêts psychiquement à entendre cette notion-là, que nous ne reverrons plus l'autre. Hein, c'est ce qu'on disait, à un moment donné, on va être même dans une recherche assez active de lien avec l'autre. Et d'ailleurs, toute notre vie, on fera ça. Hein, même si on a bien entamé le processus du deuil, comment dire, on aura toujours à cœur et on a le droit bien sûr, et c'est bon même de pérenniser aussi le lien qu'on avait avec cette personne. Donc autrement, par contre, que physiquement.
Ouais, tout à fait.
Voilà.
Je pense qu'au début, j'ai dû dire ma femme nous a quittés ou elle est partie, je suis resté sur ces termes-là.
C'est plus doux, on s'arrange aussi avec. Mais avec ça, avec cette effraction du réel, on dirait ça, voilà, là on s'arrange, on vient nuancer, on a le droit. Enfin, je crois qu'aussi, nous, on est. Au contraire, on doit se saisir. Genre, on ne va pas tout psychologiser. Et bien évidemment qu'on a le droit de. Comment dire, de créer de la poésie là où elle nous arrange et là où elle fait du bien. Il n'y a aucun mal. Je veux dire, une partie de moi sait bien que cette personne est morte et que je ne la reverrai pas. Mais il n'y a aucun mal, bien au contraire, à créer voilà, quelque chose oui, de poétique ou de...
De plus doux, en tout cas.
De plus doux, bien sûr. Ouais.
Ouais, tout à fait.
Ça vous encourage même.
Alors, est-ce qu'on peut donner un petit conseil? Y a des gens peut-être qui nous écoutent, qui n'ont pas pu voir le corps d'un parent auquel ils tenaient, et
oui.
Qui s'accrochent finalement aussi à ce, enfin, qui en font peut-être un problème. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à ces gens pour passer au-delà de cet événement un peu raté,
oui.
Quoi, on va dire.
Oui, s'il y a quelque chose comme ça qui sonne un peu de façon, qui est inachevé, s'il y a un goût comme ça, un peu amer, quelque chose d'inachevé, de ne pas, ou qu'on a empêché, ou en tout cas il y a un désir déçu. La chose simple, c'est de pouvoir s'exprimer dessus, que quelqu'un entende ce sentiment ou ce ressentiment pour ensuite pouvoir ouvrir une voie possible, c'est-à-dire, et qui sera différente d'une personne à l'autre. Le simple fait de parler pourra peut-être amener à le digérer. D'autres vont inventer, c'est ce qu'on disait, quelque chose. Je me rappelle de certaines personnes qui créent des cérémonies symboliques juste pour elles ou avec deux amis. On peut s'imaginer, moi ça m'est déjà arrivé avec des gens qui viennent ici, c'est-à-dire bah, s'imaginer justement à ce moment-là, au moment où l'autre est mort, ce moment qui m'a été, je ne sais pas, empêché, ou qui n'a pas pu être possible, et de s'imaginer de faire comme si, pour pouvoir finalement rejouer ce qu'on n'a pas pu faire.
Oui, on en
donc
parlera
là,
de
la
ça.
Création aussi.
Sur cette question, en fait, de dire au revoir, moi, je l'évoquerai un peu plus tard dans la chronologie, parce que je pense qu'il faut, il y a plein de façons, plein de moments pour dire au revoir, et qu'effectivement, quand nous, on voit le corps et ce visage dans le cercueil, on peut dire au revoir. Ceux qui ne l'ont pas vu peuvent le faire a posteriori, et je pense qu'on peut... En tout cas, moi, on fera une petite séquence là-dessus, parce qu'on peut dire au revoir plusieurs fois à la même personne, dans des laps de temps éloignés. Il y a plusieurs façons de le faire, en toute simplicité, en tout cas, encore une fois, avec le cœur, comme on dit. Et je pense que c'est un bon conseil qu'on peut donner, ça, ouais. Ouais, merci Charlotte.
Merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode. À vous tous, je vous dis, la vie est là, profitez-en. Vous êtes capables de traverser. Et surtout, cultivez l'amour, c'est le plus important. À bientôt.
Et à mon âme au sommet des villes, plus de parfums que d'épines, puis tout. Qui est à sa place? Qui est à sa place?